Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 13h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi.
Et un journal consacré à l'actualité internationale. Avec vous, Florent Guignard. Bonjour, Florent.
Bonjour, Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. L'Europe va-t-elle faire les frais de la réconciliation annoncée entre la Russie et les États-Unis alors qu'un sommet russo-américain aura lieu demain à Riyad, en Arabie Saoudite, alors que les États-Unis veulent marginaliser les Européens dans la résolution de la guerre en Ukraine. Une dizaine de dirigeants européens sont réunis aujourd'hui à Paris. Une réunion d'urgence. Et dans ce journal, on sera aussi en direct de Moscou avec les toutes dernières informations sur les préparatifs de ce sommet de Riyad. À la une également en France, le procès Nemmouche à Paris, le terroriste de l'État islamique accusé d'avoir détenu et torturé 4 journalistes français en Syrie. On parlera aussi des ennuis de François Bayrou, accusé d'avoir fermé les yeux sur un scandale de violence sexuelle dans l'enseignement catholique. Et puis aux États-Unis, les 50 ans du Saturday Night Live, l'une des plus vieilles émissions de la télé américaine.
La riposte des Européens, c'est cet après-midi à Paris, Florent.
Oui, c'est une réunion informelle organisée par la France après les déclarations de plusieurs responsables américains ces derniers jours, après la toute récente déclaration du chef de la diplomatie russe qui estime que les Européens n'ont pas leur place pour des négociations de paix sur l'Ukraine parce qu'ils veulent continuer à faire la guerre. Et alors, évidemment que la Russie et les États-Unis annoncent un sommet de la réconciliation, les États-Unis comptent imposer la paix en Ukraine sans l'avis des Européens. Muriel Paradon.
Oui, c'est une réunion présentée comme informelle qui se tient cet après-midi à Paris. Elle réunit les dirigeants de plusieurs pays européens, Allemagne, Italie, Pologne, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et la France. Les chefs des institutions européennes et de l'OTAN seront également présents. Il y a urgence car les annonces de ces derniers jours et de ces dernières heures forcent les Européens à réagir. La nouvelle administration Trump a renoué avec Moscou et les deux pays comptent apparemment régler la guerre en Ukraine seuls, sans les Européens. Il n'en est pas question, ont martelé plusieurs dirigeants, dont les Français, qui organisent cette réunion autour d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas seulement du sort de l'Ukraine, mais aussi de la sécurité en Europe. Reste à s'entendre entre Européens, tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, et à apporter des solutions. Le Royaume-Uni se dit prêt à envoyer, si nécessaire, des troupes au sol en Ukraine pour contribuer aux garanties de la sécurité. La Pologne, en revanche, ne prévoit pas d'envoyer de soldats, vient de déclarer son Premier ministre.
Muriel Paradon et la Hongrie, elle a carrément critiqué cette réunion de dirigeants, dit le chef de la diplomatie hongroise, de dirigeants frustrés, pro-guerre et anti-Trump.
Les États-Unis et la Russie ont bien l'intention de régler le sort de l'Ukraine et ça commencera donc dès demain.
Oui, Moscou et Washington l'ont confirmé. Les chefs des diplomaties russes et américaines se retrouvent demain à Riyad, en Arabie Saoudite, pour acter une forme de réconciliation. Et pour, entre autres, selon le Kremlin, parler de l'Ukraine. On retrouve à Moscou notre correspondante Anissa El-Jabri. Il s'agit en fait, Anissa, de débattre de l'Ukraine sans l'Ukraine et sans les Européens, de la plus grande guerre sur le vieux continent depuis 1945.
Voilà, Florent, et cela selon le porte-parole du Kremlin, je cite, parce que Trump l'a mentionné et que, je cite encore et surtout, cela convient à l'Amérique et à la Russie. L'un comme l'autre jugent en effet que la mise en scène très appuyée de leur tête-à-tête les valorise et l'un comme l'autre, ils veulent aussi signifier aux Européens eh bien qu'à leurs yeux, ils ne comptent pas sur la scène internationale. La diplomatie russe, elle, il y a un peu moins d'une heure, avançait un autre argument via son chef. Les Européens, via leur soutien à l'Ukraine, ne voudraient pas de la paix, juste-t-il, cela suffirait donc à les disqualifier pour un siège aux négociations.
Anissa, de quoi vont-ils parler exactement demain ?
Bien, en tout cas, sur le papier, cet échange est censé aller très au-delà du symbole, puisque la Russie a envoyé officiellement 2 négociateurs, son chef de la diplomatie et le Sherpa présidentiel pour les affaires internationales. De nombreuses autres sources officieuses à Moscou évoquent une autre présence, gage de l'intérêt du pouvoir, celle de Sergueï Narychkin, le chef du SVR, soit le responsable des renseignements extérieurs russes. Il s'agit évidemment de préparer une rencontre au sommet Poutine-Trump en mars, donc là aussi aussi très vite. Et indice, les discussions sur l'Ukraine seraient-elles à un point très avancé, au point que le porte-parole du Kremlin a carrément évoqué ce matin, de manière très allusive certes, mais c'est une première, un potentiel retour des marques occidentales en Russie, autrement dit un allègement des sanctions occidentales. On voit donc de plus en plus tout ce que les États-Unis promettent et ou promettraient de lâcher, et toujours pas quel compromis pourrait bien faire la Russie.
Anissa El Jabri en direct de Moscou. Le chef de la diplomatie des États-Unis est déjà à Riyad. Marco Rubio vient parler de l'avenir de Gaza alors que Donald Trump veut expulser les Palestiniens de la bande de Gaza. Et puis côté israélien, aujourd'hui, il y a une réunion du cabinet de sécurité pour discuter de la suite du cessez-le-feu. Alors qu'Israël, ce matin, a éliminé un responsable du Hamas qui roulait en voiture à Saïda, dans le sud du Liban.
On reste dans la région, Florent, ou en Syrie, un peu plus de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad et un peu plus de 10 ans de sanctions internationales, occidentales.
Oui, des sanctions qui doivent être levées progressivement, mais en attendant, l'effet de ces sanctions, les Syriens les subissent quotidiennement. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Dans l'espoir d'un jour meilleur, Moa Azamoui, la quarantaine passée, ouvre son restaurant populaire dans le quartier de Mezzeh à Damas, la capitale syrienne, espérant pouvoir vendre ses plats et repas prêts à emporter et rentrer chez lui avec quelques provisions et de l'argent. Moaz explique que cela fait plus de 10 ans qu'il vit ainsi, en raison de sanctions économiques imposées à la Syrie, qui ont transformé le pays en un état économiquement isolé du reste du monde.
Auparavant, nous étions capables de vendre et d'acheter, car la Syrie connaissait un grand afflux de visiteurs étrangers, notamment en provenance des pays du Golfe arabe et des pays européens. Ils avaient de l'argent à dépenser, y compris en dollars.
La situation de Moaz est similaire à celle de millions de Syriens qui ont été frappés par des sanctions économiques en raison des violations des droits de l'homme par le régime précédent. Selon le professeur d'économie à l'université de Damas, Ali El-Sayed, les principales sanctions incluent l'interdiction commerciale, l'embargo pétrolier, l'interdiction des transactions financières et les restrictions de voyage.
Le peuple syrien ne doit pas être puni pour les erreurs du régime précédent. Il a le droit de voir des résultats positifs. Et la nouvelle administration doit faire preuve d'une grande transparence envers la communauté internationale.
L'économie syrienne a connu un déclin majeur en 2020 après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sévères connues sous le nom de loi César, qui comprenaient un gel des actifs et l'interdiction des échanges commerciaux avec les pays du monde entier. Damas, Mohamed Erami, RFI.
À Paris maintenant, ouverture ce matin du procès Nemouche.
Mehdi Nemouche, djihadiste français de 39 ans aujourd'hui, déjà condamné à la perpétuité pour la tuerie du musée juif de Bruxelles avec 4 autres prévenus. Aujourd'hui, il comparaît pour son rôle au sein de l'État islamique dans les geôles du groupe terroriste. Mehdi Nemouche est accusé d'avoir séquestré et torturé des otages occidentaux, notamment 4 journalistes français. On retrouve Laura Martel en direct du palais de justice à Paris. Laura, Mehdi Nemouche s'est exprimé dès l'ouverture du procès.
Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux, de quelque otage que ce soit. En Syrie, j'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux forces de Bachar el-Assad, a déclaré Mehdi Nemouche. Puis à propos des ex-otages dont certains lui font directement face, je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie. La première fois que j'ai vu Nicolas Hénin, c'était aux Assises de Bruxelles. Une référence là à son procès en Belgique en 2019, durant lequel il avait gardé le silence, comme devant les enquêteurs français. D'où l'intérêt de cette prise de parole, car de nombreuses parties civiles redoutaient un mur de silence, même si rien ne dit qu'il continuera à parler, d'autant plus avec ce positionnement de démenti catégorique. L'une des inconnues de ce procès, c'est bien sûr la tournure que va prendre le face-à-face entre les ex-otages et leurs geôliers présumés. Car si un procès pour terrorisme est toujours émotionnellement lourd, la relation personnelle subie dans la durée entre des tortionnaires présumés et leurs victimes risque d'être un facteur multiplicateur. Alors le journaliste Nicolas Hénin a toutefois rappelé l'importance ce matin de ne pas se focaliser sur Mehdi Nemouche, qui n'est pas le seul accusé, et l'importance surtout de témoigner dans l'intérieur des rouages de ce qui deviendra l'État islamique pour les milliers de Syriens victimes des mêmes exactions et pour les autres otages occidentaux dont 8 ont été exécutés. Plusieurs ex-otages et familles d'otages européens et américains ont d'ailleurs souhaité s'ajouter à la liste des parties civiles ce matin.
Laura Martel en direct du Palais de Justice à Paris.
Et dans l'actualité également, Florent, le cri d'alerte de Denis Sassou Nguesso sur la guerre dans l'Est de la République du Congo.
Oui, le président du Congo, Brazzaville, dit craindre une guerre régionale. Dans une interview à France 24, il dit qu'il espère aussi favoriser une rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi, alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, sont entrés ce week-end dans la grande ville de Bukavu.
On en parle justement de cette avancée des M23 dans l'est de la RDC avec l'invité d'Afrique Midi, David Guessou.
En Haïti, la mainmise des gangs armés sur la capitale Port-au-Prince avec un militaire tué et deux autres blessés hier à Quinscoff sur les hauteurs de Port-au-Prince. C'est une commune stratégique. Vincent Souriau, c'est l'un des derniers verrous avant la zone verte qui abrite notamment le siège du gouvernement et les ambassades.
Oui, c'est une commune privilégiée en Haïti, peuplée de maisons cossues et d'hôtels de luxe, refuge des élites haïtiennes qui viennent en villégiature, traîner entre les chalets, flâner dans les boutiques et danser au bal. C'est aussi un carrefour stratégique en raison de son altitude, 1500 mètres de haut, avec ses collines boisées. Quinscoff domine la baie de Port-au-Prince. Si des gangs s'en emparent, ils auront l'avantage du terrain, une vue plongeante sur les renforts de police qui voudrait rejoindre cette zone pour défendre la capitale et protéger son approvisionnement. Enfin, c'est le dernier échappatoire. Les groupes armés contrôlent déjà l'essentiel des axes qui partent de Port-au-Prince. La route de Quinscoff a beau être escarpée, à la merci des éboulements, poussiéreuse, mal entretenue. De plus en plus d'Haïtiens l'ont emprunté ces derniers mois pour contourner le danger. Si Quinscoff tombe, il n'y aura plus d'alternative. Les institutions haïtiennes seront prises au piège et les habitants de cette zone n'auront quasiment plus aucun moyen d'en sortir.
Vincent Souriau du service international de RFI.
Un mot concernant la santé du pape. Le souverain pontife souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires. C'est le Vatican qui l'a annoncé il y a quelques minutes.
Oui, le pape qui a 88 ans et qui a été hospitalisé vendredi à l'origine pour une bronchite.
Et retour en France dans ce journal avec l'affaire Betaram qui continue de poursuivre le Premier ministre François Bayrou.
On rappelle les faits. Notre-Dame de Betaram, c'est un collège lycée catholique dans la région de Pau, la ville dont François Bayrou est le maire. Un établissement scolaire catholique à la réputation très sulfureuse. Au moins 112 plaintes ont été déposées par des anciens élèves pour violences physiques et sexuelles des années 60 jusqu'en 2011. Des violences dont François Bayrou avait été alerté, des violences face auxquelles le Premier ministre est accusé d'avoir fermé les yeux alors que sa femme enseignait dans cet établissement. Le Premier ministre est sous la pression, il est accusé d'avoir menti et la gauche réclame sa démission, Valérie Gasse.
François Bayrou va devoir peser chacun de ses mots car nul doute que le Premier ministre va être interrogé encore une fois dans l'hémicycle sur l'affaire Betaram et ce qu'il en savait. Ce matin encore, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a accusé François Bayrou d'avoir menti la semaine dernière devant la représentation nationale, invoquant plusieurs témoignages recueillis depuis par la presse selon lesquels le Premier ministre avait connaissance des faits. Il en tire la conclusion que le chef du gouvernement doit quitter Matignon. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a lui aussi estimé que François Bayrou avait menti et a expliqué que selon lui, s'il avait couvert ces violences, il devait en conscience démissionner. La tentative de déminage du chef du gouvernement samedi lorsqu'il est allé rencontrer des victimes à Pau et est apparu particulièrement ému face à la presse pour affirmer à nouveau sa bonne foi, annoncer des actions en faveur des victimes, la montée au créneau de ses proches comme Marc Fesneau pour expliquer qu'il n'avait pas connaissance des violences sexuelles quand il était ministre, n'ont pas suffi à calmer les critiques de la gauche qui continue donc son offensive politique.
On termine cette édition, Florent, avec le Saturday Night Live qui fête ses 50 ans aux États-Unis.
Une institution de la télé américaine diffusait donc chaque samedi soir émission de sketch d'humour et pour l'émission anniversaire diffusée exceptionnellement hier soir, l'humour a frappé fort et en particulier Donald Trump, correspondance d'Edouard Maille.
C'est l'acteur et comédien Steve Martin qui a ouvert l'émission avec le monologue traditionnel et dès l'entrée, quelques attaques contre Donald Trump. Même si le président n'est jamais nommé, l'humoriste lance une pique sur le changement de nom du golfe du Mexique par le golfe d'Amérique.
Je n'arrive pas à croire que je suis arrivé ici à temps. On m'a prévenu il y a seulement quelques jours que je faisais le monologue. J'étais en vacances sur le bateau d'un ami sur le golfe de Steve Martin.
Un autre invité arrive sur scène l'acteur Martin Short qui plaisante « Je pensais qu'on allait présenter l'émission ensemble ». Puis Steve Martin lui demande s'il a son passeport, lui qui est canadien, et fait appel à deux agents des forces de l'ordre de l'immigration qui débarquent dans leur blouson floqué du logo de ICE, l'acronyme de ces autorités.
Non, non, je vais coopérer, je vous donnerai des noms.
Très peu de références ont ensuite été faites sur le président, mais lors du rituel du faux journal télévisé, plusieurs blagues sont faites contre le nouveau gouvernement.
C'est un honneur et un plaisir de présenter les infos du week-end pour la 50e saison de SNL, même si le président aimerait que ce soit la dernière.
Donald Trump a par le passé été invité sur l'émission, ce qui avait créé de vives tensions entre la direction et certains employés. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
RFI, 13h15 à Paris, RFI Midi continue avec vous, Grégoire Morelli.
Eh oui, tout à fait, c'était le journal de Laurent Guignard, merci à vous. Et on parle sport à présent avec vous, Thomas Saint-Léger, bonjour.
Bonjour Grégoire.
Il ne devait plus jouer au football. 8 mois après, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Le joueur algérien de Lille, Nabil Bentaleb, a retrouvé les terrains hier soir. Mieux que ça, il a marqué un but très important pour son équipe.
Ouais, c'est l'histoire du week-end, l'image peut-être de ce début d'année en Ligue 1. La course folle de Nabil Bentaleb poursuivi par ses coéquipiers. Il vient d'ouvrir le score face à Rennes. 4 minutes après son entrée en jeu, 8 mois après son malaise, l'Algérien qui est aujourd'hui équipé d'un défibrillateur avait reçu quelques jours plus tôt l'autorisation de reprendre la compétition. Une émotion intense qu'il a racontée au micro de nos confrères de DAZN.
C'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi. On m'annonce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer. On me dit de rentrer. Mais sur le corner, je savais un peu, je sentais que j'allais marquer. J'ai bossé très très dur ces derniers mois pour arriver à ce genre de résultat. Et maintenant, bien sûr, on retient ça, mais le plus important, c'est déjà ma santé. Ma famille, franchement, mon grand frère, ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs. Franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football, et quelque part c'est pour eux que je le fais également.
Et bien lancé par ce but de Nabil Bentaleb, Lille l'a finalement porté 2-0 à Rennes. Les Lillois sont 5e de Ligue 1 dans la bataille pour le podium.
On continue de parler football en Espagne cette fois avec cette occasion en or ce soir pour le Barça.
Avec le match nul du Real Madrid sur le terrain de l'Osasuna Pamplune samedi, le FC Barcelone peut prendre la tête de la Liga à condition de battre ce soir en match décalé de la 24e journée le Rayo Vallecano, l'équipe surprise de la saison, 6e du classement, une équipe avec des qualités bien identifiées par Hansi Flick, l'entraîneur du club catalan.
And of course, Rayo make...
Bien sûr, le Rayo Vallecano fait vraiment du bon travail avec son entraîneur Inigo Pérez. C'est vraiment incroyable, parce que quand je suis arrivé au Barça, on m'a dit « Ok, au Rayo, c'est très difficile de gagner. C'est une équipe courageuse et ce n'est pas facile là-bas, parce qu'ils attaquent, ils pressent et ils le font avec une très haute intensité. Donc a priori, ils le font aussi à l'extérieur. C'est leur marque de fabrique. Et c'est pourquoi ils ont du succès et qu'ils s'en sortent vraiment très bien. »
Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, coup d'envoi de FC Barcelone, Rayo Vallecano à 20h, temps universel.
Et puis en basket, c'était une grande première pour lui. À 21 ans, le français Victor Wembanyama a participé pour la première fois au All-Star Game, le match des étoiles de la NBA.
Victor Wembanyama faisait partie et faisait équipe entre autres avec Pascal Siakam, le Camerounais. Ils sont allés jusqu'en finale de ce petit tournoi entre grandes stars, une belle soirée. Mais il aurait quand même aimé l'accrocher, ce titre honorifique. Wemby, compétiteur avant tout, est déçu de la défaite finale de sa formation face à celle emmenée par le meilleur joueur de l'événement, Stephen Curry.
Non, c'est pas du tout anecdotique, c'est il y a de la déception. Voilà, je me dis toujours qu'on aurait pu, plus, faire plus, faire mieux. Mais bon, c'est vrai que les équipes étaient construites de manière assez spéciale et que voilà, ils ont eu de la réussite aussi en face. Je me suis pas fait d'amis effectivement, mais j'ai beaucoup appris, j'ai posé des questions. J'ai eu des, franchement, de joueurs incroyables. Je citerai pas de nom, même je donnerai pas d'exemple, mais j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses très très intéressantes.
Victor Wembanyama avec Théo Quintard à San Francisco.
Et ouais, c'était le journal des sports de Thomas Saint-Léger.
RFI Midi.
Grégoire Morelli.
Hier soir, Keir Starmer a franchi un cap en annonçant dans le Daily Telegraph être favorable à un envoi de troupes au sol en Ukraine pour contribuer aux garanties de sécurité du pays. C'est la première fois que Londres évoque l'envoi de troupes au sol. Le Royaume-Uni qui entretient une relation spéciale avec les États-Unis. Avec nous pour en parler ce midi, François Hesbourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes conseiller spécial à l'ISS, l'International Institute for Strategic Studies, et conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la sécurité et des questions de défense. Est-ce qu'avec cette annonce, Keir Starmer cherche à s'émanciper vis-à-vis des États-Unis ?
Je crois qu'il y a un mouvement général en Europe à la suite de la désastreuse conférence de sécurité à Munich, de tenter de vivre dans un monde, dans une Europe, dans laquelle l'Amérique ne sera plus le garant de sécurité qu'elle a été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Royaume-Uni, bien sûr, cherche à limiter les dégâts, vu sa relation spéciale avec Washington, mais le fait reste que les Britanniques ont besoin, comme les autres Européens, de se défendre, et comme les Américains ne sont plus forcément au rendez-vous, ils en ont pris la conclusion, ils ont tiré la conclusion logique.
Mais alors jusqu'où le Premier ministre britannique, il peut aller dans son rapport de force avec Washington ?
Je suis pas sûr que ça se pose en termes de rapport de force, ça se pose plutôt dans un rapport d'absence. Si les Américains sont absents, les Britanniques doivent bien tenter de remplir le vide, comme nous le tentons de le faire tous. Ce sera un des grands sujets du sommet spécial à Paris ce soir. Comment éviter que l'Ukraine perde la guerre si les Américains la laissent tomber, ce qui semble être malheureusement le cas, et comment défendre l'Europe devant une Russie dont les moyens militaires et budgétaires sont en rapide croissance. C'est cela qui se joue. C'est pas que les Américains pèsent sur nous, c'est parce que les Américains sont en train de faire ce que beaucoup de Français estimaient devoir être le cas il y a depuis longtemps. On est toujours parti du principe dans la France gaullienne qu'un jour les Américains partiraient. Ce jour semble être en train de commencer à arriver.
Alors, Keir Starmer, lui, a précisé qu'il rencontrerait le président américain Donald Trump dans les prochains jours. Finalement, est-ce que Londres ne chercherait pas à s'imposer comme le relais entre l'Europe et les États-Unis de Donald Trump ?
Je crois que Donald Trump n'est pas intéressé à avoir une relation particulièrement forte avec l'Europe, et donc il n'est pas à la recherche de relais. On est dans une situation rigoureusement inverse. Ce soir, on comptera le nombre de pays européens qui estimeront pouvoir déployer des troupes en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité. La Suède a emboîté le pas au Royaume-Uni, les Pays-Bas également, les Danois très vraisemblablement, les Finlandais s'expriment après dans le même sens, la France, bien entendu, le dit depuis déjà près d'un, plus d'un an maintenant. Et c'est cela qui va compter à la fin de la journée. C'est combien d'Européens sont prêts, le cas échéant, à s'engager pour défendre une Ukraine et une Europe qui ne serait plus protégée par les États-Unis.
Et pour revenir sur le cas du Royaume-Uni, comment la population britannique, elle, perçoit ce possible envoi de troupes au sol ?
Bon, je crois que c'est un peu tôt pour se prononcer. La réalité nouvelle est quand même toute récente. C'est vraiment le... Ce sont les discours successifs de la semaine dernière de M. Trump et de M. Hegseth, le secrétaire de la Défense, suivi surtout par celui du vice-président Vance avant-hier à Munich, qui ont montré que on a changé d'époque. On est entré, à Paris aujourd'hui se tiendra le premier sommet qu'on pourrait appeler un sommet post-atlantique ou post-américain. C'est quelque chose de très très fort. Les opinions publiques n'ont pas encore eu vraiment l'occasion de réagir, sauf peut-être en Allemagne, à cause des élections qui ont lieu dans quelques jours, élections dans lesquelles les États-Unis se sont ingérés avec vigueur en faveur d'une extrême droite que même Madame Le Pen ne considère comme infréquentable. On en est là. On n'est pas dans le monde d'avant.
Et peut-être une dernière question, comment vous pourrez qualifier la relation entre les deux hommes, entre Donald Trump et Keir Starmer?
Je pense qu'elles sont essentiellement absentes. Il est très difficile d'imaginer deux tempéraments, deux caractères aussi différents l'un de l'autre que ces deux-là. Et je ne pense pas qu'une rencontre permettra d'avancer de beaucoup, même en partant du principe probablement faux que M. Trump serait intéressé à développer la relation.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, M. Hesbourg. Je le rappelle, vous êtes conseiller spécial à l'ISS, l'International Institute Strategic Studies. Je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage, Un monde sans l'Amérique, paru aux éditions Odile Jacob. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
RFI Midi.
On parlait du Royaume-Uni, justement. Le Royaume-Uni, où la reconnaissance faciale se développe dans les commerces, alors que dans différents espaces publics, elle est interdite en Europe. Mais au Royaume-Uni, elle est notamment utilisée pour lutter contre le vol à l'étalage, une pratique non encadrée par le droit, qui aboutit de facto à la constitution de fichiers de suspects. Cela inquiète les ONG. Je vous propose d'écouter ce reportage à Londres et Weymouth de Marie Billon.
Dave est assis dans l'arrière-boutique de son magasin d'alimentation générale près de la gare de Weymouth. Il regarde l'enregistrement, qui date du mois de décembre, d'une femme en train de prendre des bouteilles d'alcool pour les mettre dans les poches de sa parka. Un superviseur l'a vu et est allé lui demander des comptes. C'est justement pour éviter ce genre de choses que Dave a installé FaceWatch, un logiciel de reconnaissance faciale, en juin 2023.
Avant FaceWatch, nous avions des vols 2-3 fois par jour, parfois plus. Il s'agissait souvent des mêmes personnes. Maintenant, nous en sommes à 2 ou 3 vols par semaine. Nous recevons des alertes de FaceWatch. Lorsque des voleurs qu'on a déjà repérés essaient encore d'entrer dans notre magasin, ils sont refoulés à la porte. Donc très souvent, cela évite qu'il y ait vol. Voici donc la caméra de surveillance avec FaceWatch. Elle prend un cliché, le compare avec une base de données. Si la personne correspond à la base de données, nous sommes alertés dans les 6 secondes qui suivent le passage de la porte.
Mais d'autres commerçants des alentours qui utilisent le même logiciel, FaceWatch, remplissent aussi leur propre base de données.
Chris Jones est le chef exécutif de l'ONG pour les libertés publiques Statewatch. Du haut de la terrasse de son immeuble d'entreprise, Chris Jones surplombe Fleet Street, l'une des rues principales de la cité de Londres, le quartier financier. Il sait que les caméras sont partout, dans les rues, dans les commerces. Ce qui l'inquiète surtout, c'est le manque de régulation. Il pense au système de partage des informations qu'utilise par exemple Dave à Weymouth et les commerçants des alentours. Qui sont-ils pour punir une personne sans qu'elle ait été jugée et déclarée coupable?
C'est très dangereux pour une société de voir les moyens de sécurité privée se multiplier à ce point, car il est censé y avoir un seul ensemble de lois pour tous, appliquées de manière égale par le système de justice pénale. Donc on s'éloigne de plus en plus de l'idéal d'une société fondée sur l'état de droit.
Normalement, les commerces doivent préciser s'ils utilisent des caméras de surveillance et si la reconnaissance faciale est utilisée. Mais selon les ONG comme Statewatch, tous ne jouent pas le jeu et ne préviennent pas les clients qui ne peuvent alors pas donner leur consentement. Consentement qui se fait de facto, simplement en entrant dans le magasin. Marie Billon, Londres, RFI.
Et voilà donc qui clôt cette demi-heure d'information. Tout de suite, Afrique Midi.
RFI, la sélection du mois.
C'est pas si grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de vouloir les ignorer.
Youssoupha.
Le but, c'est pas d'être la meilleure. Le but, c'est de chaque jour s'améliorer. Imadou.
Jaron Marshall et Jadanaï. RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Dans la tête de Nassémon Fallé, jeune écrivain ivoirien en résidence à la Villa de Nar à Saint-Louis du Sénégal. Dans la tête de Modou Fatatiam, universitaire, spécialiste des littératures orales africaines. Une plongée dans l'imaginaire des écrivains où se côtoient le quotidien et les légendes.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou. du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Balaké Sissoko, le maître malien de la kora, et Pierce Faccini, auteur, compositeur, interprète. C'est une collaboration qui dure depuis 20 ans, mais les voilà enfin réunis pour un premier album, Our Calling, notre appel. Il nous parle migration, celle des oiseaux et celle des hommes.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.